choix ou c'est bien que de te louer parmi les
Voilà, c'est un thème qu'on aime beaucoup avec Claude. On a quelques petites années d'expérience déjà.
Tout à fait.
Et on a vu que c'est un sujet qui est très évolutif parce que nous, on change tout le temps. Mais heureusement, Dieu ne change pas, son amour ne change pas. Et il est toujours là pour nous aider et pour nous encourager de mieux faire.
C'est un thème qu'on a vraiment à cœur, c'est pour ça qu'on fait entre autres des séminaires sur le sujet régulièrement.
Absolument.
On a même écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Couple en mission ». On y reviendra à la fin de ce cours. Et ce thème, il est aussi cher au cœur de Dieu le Père. D'ailleurs, lorsque au commencement Dieu crée, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il place un couple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden.
Ah, un joli jardin, comme avec un arbre, comme celui qui est derrière nous.
Avec l'arbre de vie.
Un arbre de vie.
Ils se sont trompés d'arbre et des problèmes ont commencé. Et donc, à travers, c'est vrai, ces enseignements sur ce sujet, on va essayer de vous apprendre à ne pas vous tromper d'arbre, justement, et puis savoir ensemble vous nourrir à l'arbre de vie qu'est Jésus. Ça sonne bien tout ça.
Oui, ça sonne bien.
Alors, si Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a placé un couple pour pouvoir développer une vision qui était sur son cœur, on peut dire. Eh bien, c'était pas pour qu'Adam et Ève se fassent bronzer tout nus dans le jardin, qu'ils prennent le thé à 17h. Dieu avait un plan à long terme. Je crois que dans ce jardin, d'ailleurs, ils étaient en formation. Ils ont raté leur formation, mais ils étaient en formation parce que Dieu voulait leur apprendre à dominer.
Oui, il voulait les apprendre à être des gardiens.
Oui, plus précisément, pas dominer dans le mauvais sens du terme, mais pour être des gardiens.
Des gardiens de toute la création et le gardien de l'un et l'autre.
Oui, et les gardiens de ceux qui viendraient après eux.
Bien sûr.
Et donc nous sommes appelés à marcher sur leurs traces. Nous sommes appelés à apprendre à dominer plutôt que d'être dominé dans ce monde. Dominer la maladie, dominer le manque, dominer sur tous les pièges que l'adversité place sur notre chemin et sur le chemin des couples, comme on peut le voir aujourd'hui, n'est-ce pas ? Avec tous ces divorces qui interviennent à droite et à gauche, l'adversaire a un plan précis à détruire le couple parce qu'il sait qu'il a beaucoup à perdre lorsqu'il est confronté à un couple qui sert Dieu dans la complémentarité. On l'a vu dans le cours sur l'unité, il y a ce principe, c'est que si un chasse mille, deux n'en chassent pas 2000, j'ai l'habitude de dire comme le veut une certaine logique, mais deux en chassent 10 000 et qu'il y a donc multiplication ou démultiplication de l'onction lorsque deux êtres sont unis pour servir Dieu dans cette unité.
Et ils deviennent parents la plupart du temps. Et c'est important qu'un couple, ils apprennent d'être déjà fonctionnels entre eux deux pour pouvoir être des bons papas et des bons mamans selon la volonté de Dieu, selon ce que le cœur de Dieu. Et Dieu, il est notre père. Il y a aussi ce côté El Shaddai et notre mère. On a vu ça dans un autre cours. Mais il veut qu'on soit des parents qui soient attentifs. Et la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'on peut faire pour nos enfants qui vont, et les générations qui vont nous suivre, c'est de leur donner une stabilité et de l'amour dans le foyer.
Oui, et justement, je reviens et je rebondis à partir de ce que tu dis. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden aussi pour qu'ils remplissent la terre. Et donc nous sommes appelés à, je le disais, à marcher sur leurs traces, donc pour dominer, pour être des gardiens, pour se bénir l'un et l'autre, n'est-ce pas ?
Pour s'aimer.
Et pour aussi, eh bien, engendrer, engendrer des nouvelles créatures en Jésus-Christ par notre témoignage, pour être des pères et des mères spirituelles. Et je sais qu'en ce qui me concerne, lorsque j'étais jeune, j'ai trouvé mes pères spirituels dans les livres, parce que dans le contexte dans lequel je me trouvais, je ne pouvais pas trouver de père spirituel. Mais il faut aujourd'hui, parce que c'est le plan de Dieu, que se lèvent des hommes et des femmes qui sont des pères et des mères spirituels. Et une réalité que je veux partager avec vous, mes amis, et qui est devenue une évidence pour moi à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas être un bon père spirituel si on n'est pas d'abord un bon père tout court et un bon mari. On ne peut pas être une bonne mère spirituelle avec des entrailles de miséricorde pour des enfants spirituels si on n'est pas d'abord une femme conciliante, une femme agréable à vivre pour son mari. Parce que la Bible relie directement le fait de servir Dieu au fait d'avoir appris d'abord à le servir dans sa famille, n'est-ce pas ? Et être une femme agréable avec qui on peut vivre, eh bien c'est à travers cela qu'on prouve qu'on peut être aussi une bonne mère spirituelle pour une génération qui est en panne de père et de mère.
Ses parents.
Hein, elle a perdu ses repères, parce que sans père, eh bien, on n'a plus de repères. Sans parents spirituels, on perd tous ses repères. Donc, c'est un temps pour que se lèvent des hommes et des femmes, alléluia, eh bien, qui vont pouvoir être des exemples pour montrer aux jeunes gens qui se lèvent à leur tour pour servir Dieu, eh bien, quel est le chemin. Ce chemin, ce n'est pas seulement le chemin qui consiste à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux, mais qui consiste aussi à vivre dans le cadre de leur relation, eh bien, quelque chose qui donne envie.
Ok, maintenant Claude, parlons de quelques principes qui peuvent nous aider à vraiment comprendre comment le couple peut rester fondé dans l'amour face à une société où tout part en vrille, en fait.
Oui, et face à un adversaire qui fait tout ce qu'il peut pour
diviser,
hein, oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour briser les familles et les couples.
Bien sûr.
Eh bien, nous, on a trouvé quelques principes dans la parole de Dieu, d'ailleurs, qu'on a appris avec les années à mettre en pratique et qui fonctionnent pour nous permettre de devenir meilleurs au lieu de devenir pires. Par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. Il n'est pas question d'essayer d'enseigner ici des principes humains, mais les principes que la parole de Dieu nous révèle pour réussir même l'ensemble de notre vie. Un de ces principes, Julia, et ceux qui nous connaissent nous ont entendu régulièrement parler de cela, c'est d'apprendre à être d'accord
de
ne pas
être d'accord. Alors ça, c'est vraiment important.
Pourquoi ? Parce que, eh bien, on se rend compte que dans cette société, souvent, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une personne, elle se sent obligée d'être en conflit avec vous. Et là, il y a toute notre insécurité qui ressort. Ah, ma femme n'est pas d'accord avec moi, mon mari n'est pas d'accord avec moi, je me sens rejeté. Or, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout avec l'autre, et même c'est sain de ne pas être d'accord sur tout, ça nous permet d'échanger des opinions et de trouver souvent le milieu de la route, un équilibre, et nous devons gérer notre insécurité qui nous rend souvent agressifs.
Ça veut dire qu'en fait, que ces deux entités indépendantes, avec leur personnalité, mais qui sont d'accord d'avoir des opinions différentes
et qui respectent,
et que respectent l'opinion de l'autre, ça ne veut pas dire que de voir tout pareil, en fait, c'est presque dangereux. Je dirais que c'est dans un couple où il n'y a jamais une opinion différente l'un que l'autre. C'est assez
ça veut dire
souvent
qu'il y en a toujours un qui s'écrase.
Exactement.
Finalement. Et ça, c'est pas sain.
Donc, il faut qu'on puisse cultiver dans notre relation que chacun y peut avoir une opinion différente. Et ça ne veut pas dire que ça change notre affection ou que l'autre ne se sent pas menacé parce que l'autre ne croit pas tout à fait comme nous.
C'est ça, ne pas se sentir menacé parce que l'autre a une autre opinion que nous. Au contraire, c'est positif. Ça signifie qu'on respecte l'autre et qu'il a le droit de penser par lui-même. Elle a le droit de penser par elle-même.
Eh oui.
Et c'est souvent lorsqu'on confronte deux opinions contraires qu'on va trouver justement l'équilibre. Parce que nous avons tous tendance à partir dans des déséquilibres. Et lorsqu'on a une autre opinion, eh bien, et qu'on donne le temps à l'autre de s'exprimer, parce que souvent, lorsqu'on est braqué, on se braque et on imagine souvent même plus que ce qu'est la réalité, n'est-ce pas? Et on empêche l'autre de s'exprimer. Mais quand on permet à l'autre de s'exprimer, eh bien, on a de sérieuses surprises régulièrement, et ça nous arrive régulièrement, n'est-ce pas, chérie? Eh bien, du coup, on s'est dit, ah ben tiens, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Finalement, c'est si stupide l'opinion que l'autre il a, n'est-ce pas? Et il y a même des moments où on se dit, ben finalement, j'avais pas compris les choses comme cela. Eh bien, c'est 50-50, hein. Et il y a d'autres fois où on se dit, ben finalement, oui, j'avais vraiment pas compris. Pris ça, c'est 70 pour 30 et les 30 sont pour moi. Quand ça n'arrive pas, et oui, ça arrive, qu'on se dise, bah ouais, zut, alors maintenant que l'autre a pu s'exprimer, m'expliquer son point de vue, je me rends compte que j'avais tort. Waouh, j'avais tort.
Ah, c'est beau ça, et qu'est-ce que j'aime quand on arrive à se dire, mais chérie, j'ai eu tort. Hein? C'est parfois plus difficile de dire que de l'entendre, hein? Ça c'est certain. Mais parfois, de juste accepter que l'autre a notre opinion, on laisse passer le temps. Et ce n'est pas de pouvoir prouver que nous on a raison, que l'autre a tort, mais de se dire que parfois, eh bien, dans les deux possibilités, eh bien, c'est deux façons différentes de voir une situation, mais elles ne sont, elles sont pas mauvaises non plus. Donc, c'est comme ça, c'est un peu comme deux yeux, on a deux yeux, et les deux yeux, eh bien, on a deux points de vue différents qui nous permettent d'avoir une vue juste. Et la profondeur est de voir en trois dimensions.
Ça aussi.
Et ça, c'est la volonté de
chacun,
Dieu.
Avoir chacun une opinion précise, ne pas avoir honte de ses opinions, nous permet d'avoir souvent la vue sous un angle différent de la même chose aussi. Hein? Mm-hmm. On se rend compte que les gens qui ne savent pas se remettre en question, ils sont vraiment difficiles à vivre. Chaque fois qu'on n'a pas su, que je n'ai pas su me remettre en question, eh bien, j'ai été difficile à vivre pour soi, n'est-ce pas? Et ça, c'est le lot de chaque couple. On apprend aussi à travers nos erreurs, à travers nos maladresses, notre orgueil, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est de savoir tirer enseignement. Je connais certaines personnes, mon Dieu, lorsque je les ai rencontrées, je me suis dit, waouh, comment ces gens vont pouvoir évoluer. Mais je me suis rendu compte que c'était des personnes qui se remettaient en question devant Dieu, qui avaient vraiment une conscience lorsqu'elles avaient tort, eh bien, leur conscience ne les laissait pas tranquilles tant qu'elles n'avaient pas rectifié le tir auprès des gens qu'elles avaient offensés. Et avec les années, j'ai vu ces personnes évoluer à toute allure, là où d'autres qui semblaient bien mieux, je dirais au départ, plus chrétiennes, hein, mais qui ne savaient pas se remettre en question, eh bien, elles ont continué à galérer et à tourner en rond, toujours avec les mêmes problèmes, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et dans le cadre du couple, on est appelé à se servir l'un et l'autre, et non pas à chercher à être servi par l'autre. Et vous savez, c'est le même principe que dans une église. Lorsque vous venez dans une église et que vous venez pour être servi par les autres, eh bien, vous allez être bien déçu, n'est-ce pas? Mais si vous venez pour servir, 80% des gens dans une église viennent pour servir au lieu de venir pour être servi, vous réglez 80% des problèmes d'une église. Eh bien, il en est de même dans le couple. Ne vous mariez pas pour être servi par quelqu'un. Mariez-vous avec cet état d'esprit de service qu'avait Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Dites-vous, cette personne que Dieu m'a confiée, cette femme, cet homme que Dieu m'a confié, eh bien, je vais tout faire avec l'aide du Saint-Esprit pour la servir. Servir au mieux. Et si les deux sont dans ce même état d'esprit, les deux vont se retrouver très bien servis. Waouh! Nous avons tout à gagner à avoir une mentalité de serviteur plutôt que d'être des personnes qui cherchent toujours à être servies par les autres, parce qu'alors nous voudrons aussi tout le temps chercher à être servi par notre propre conjoint, et cette attitude détruit un couple.
Et quelle meilleure manière que les enfants peuvent grandir avec une mentalité ouverte, et c'est de voir que leurs parents, ils peuvent reconnaître que parfois ils ont eu tort, ou ils se trompaient, ou ils se rectifient en chemin. L'amour, c'est un voyage, c'est pas une position, c'est une grande aventure. Et on a encore du boulot aussi,
ah oui,
oui, surtout.
Ah oui, surtout
mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir cet amour de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite dans nos foyers et qui nous permet d'évoluer. Et pour cela, il faut qu'on soit enseignable.
Oui, ce n'est pas une question d'être parfait, mais il faut permettre au Saint-Esprit de nous travailler pour que l'amour aille en grandissant avec les années au lieu d'aller en diminuant.
Et tu l'as dit,
tu l'as dit, les enfants, de toute façon, les enfants, on ne peut pas leur cacher certaines choses, ok ? Il vaut mieux leur dire parfois, papa il a eu tort, il n'aurait pas dû se mettre en colère, maman n'aurait pas dû parler comme ça, et on va être estimé d'eux, parce qu'on sait reconnaître nos erreurs, plutôt que si on les cache, ils vont le voir quand même, et ça ne va pas être un bon modèle pour eux à suivre. Donc, les premiers modèles que les enfants ont, ce sont leurs parents. N'oublions pas cela. Nous avons un témoignage à donner, en tant que chrétiens, bien sûr, autour de nous, pour faire connaître l'Évangile, mais avant tout cela, nous avons un témoignage à donner dans notre famille, à commencer par nos enfants. Alors il y a certaines choses qu'il nous faut comprendre par rapport à la parole de Dieu, certaines déclarations de la parole de Dieu qui se rapportent au couple et qui peuvent être très mal interprétées, et qui sont régulièrement très mal interprétées, ce qui amène à produire le résultat opposé de celui recherché. On trouve certaines déclarations, par exemple dans l'Écriture, l'homme est le chef de la femme. Alors,
ça fait peur à beaucoup de femmes.
Ça peut faire peur à beaucoup de femmes. Pourquoi ? Parce que si on associe les définitions du monde à ce qu'est un chef, à cette expression que l'on retrouve dans les Corinthiens, eh bien sûr que ça ne donne pas envie d'avoir un chef qui va nous dominer, n'est-ce pas ? Jésus a parlé au sujet de l'autorité. Il a dit, vous voyez, les dirigeants de ce monde profitent de leur autorité pour abuser des autres. Donc la notion de chef qu'on a souvent, c'est celui qui va profiter de sa position, qui va nous rabaisser, qui va abuser de nous. Donc il est important de ne pas donner les définitions du monde aux termes bibliques et de comprendre que nous devons aller chercher les définitions bibliques qui correspondent à ces termes. Et d'ailleurs en grec, le mot chef signifie source de bénédiction.
C'est ça.
Donc lorsque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, elle dit littéralement que Dieu a placé l'homme en place d'autorité, non pas pour écraser sa femme, mais pour être une source de bénédiction. Et d'ailleurs, l'autorité qu'il va exercer, ben, c'est pas une autorité où je donne des commandements, fais ceci, fais cela, parce que j'ai une autorité. Et donc nous devons bien comprendre que l'autorité selon Dieu consiste, nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, à servir l'autre et à être un sujet de bénédiction pour lui, de la même façon que Jésus a fait une démonstration à ses disciples, parce qu'à un moment donné, les disciples, ils veulent savoir qui est le plus grand. Et Jésus, leur donne un merveilleux enseignement en lavant les pieds de chacun d'eux et en leur disant, si quelqu'un veut être grand, doit avoir une autorité au milieu de vous, qu'il soit le serviteur de tous. Nous avons trop de gens aujourd'hui qui veulent servir Dieu et avoir une autorité pour dominer sur les autres. Alors que serviteur de Dieu signifie serviteur des autres. La position de Marie nous place en position de mieux aider notre femme à devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, on voit que la vraie autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on exige de l'autre, mais c'est quelque chose que l'autre nous donne. Et dans un couple aussi, il y a des sphères d'autorité, il y a des domaines où je m'en sors peut-être mieux que mon mari.
Ah oui ?
Et il y a des domaines où mon mari, il s'en sort mieux que moi.
Tout à fait.
Et l'avantage d'être différents tous les deux, c'est qu'on met nos atouts ensemble pour pouvoir être plus efficaces. Mais s'il y a une relation où il y a un qui va dominer l'autre et qui va exiger que l'autre soit soumis tout le temps, à un moment donné, ça va exploser. À un moment donné, un va être usé, ou sinon il va avoir des sentiments de,
d'amertume,
de vengeance même. Mais si on arrive à comprendre ce que Dieu veut vraiment, c'est qu'on est, on est là pour servir l'autre et d'aider l'autre de grandir et de devenir celui que Dieu il a toujours voulu qu'il devienne.
Tout à fait. Et ce n'est pas parce que la Bible dit que l'homme a une autorité dans le cadre de son foyer que la femme perd toute autorité. Comme tu viens de le dire, en fait, chacun de nous a autorité dans le domaine où il est le meilleur.
Exactement.
C'est pour ça que dans certains couples, eh bien, ça va être l'homme qui gère les finances. Dans d'autres couples, ça va être la femme. Pourquoi ? Parce que le fait de gérer les finances ne dépend pas du fait d'être un homme ou une femme, mais pas, du fait d'être plus ou moins doué pour le faire. Et donc, chacun a autorité dans le domaine où il est le plus doué. Et ça, il faut le comprendre.
Et parce... c'est comme ça qu'on soit en équipe.
Oui, parce on, que sinon, nous avons... une définition archaïque de la relation entre l'homme et la femme. Et je dirais d'ailleurs que certains hommes, ils aiment bien ce passage qui dit « Femme, soyez soumise à vos maris » parce qu'ils l'interprètent justement d'une manière...
À leur avantage.
À leur avantage, qui leur donne tous les droits sur leur conjoint. Et ce n'est pas du tout ce que veut dire l'Écriture. D'ailleurs, j'aime bien une traduction, hein, Julia, c'est la traduction d'ailleurs... en anglais, The Passion Bible, qui traduit « Femmes, soyez soumises à vos maris » par « Femmes, soyez dévouées avec tendresse à l'égard de vos maris ». Et cette traduction a pour but justement de faire comprendre vraiment les nuances du grec qui peuvent nous échapper dans des traductions un peu trop littérales. Alors c'est un point important à soulever, n'est-ce pas ? Et puis, toujours dans la même veine, vous savez, cette expression « aide ». La Bible dit que Dieu donne à l'homme une aide semblable, d'ailleurs il précise, ça veut dire qu'elle n'est pas inférieure. Et cette notion d'aide, parfois, elle est faussée là aussi dans notre esprit. Parce qu'on imagine un peu que l'aide, c'est la boniche, tu sais, voilà, c'est quelqu'un de secondaire. Mais non. Je voudrais vous préciser, nous l'avons vu dans le cours sur le Saint-Esprit, hein, que le mot « aide », c'est une des définitions de qui est le Saint-Esprit. Donc lorsque Dieu appelle la femme une aide, ce n'est absolument pas avec une connotation d'infériorité, n'est-ce pas, pour la rabaisser, puisque c'est la même expression qui est utilisée, c'est la même définition qui est utilisée pour le Saint-Esprit lui-même. Donc c'est une place valorisante
en
que d'être une aide.
Oui. Et d'ailleurs, Dieu ne donne pas une aide à quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide.
C'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, si nous avons besoin d'une aide, c'est parce que sans cette aide, on ne va pas s'en sortir.
Et on a besoin les uns des autres. Et au fur et à mesure, parfois c'est moi qui ai besoin de toi et parfois c'est toi qui as besoin de moi.
Mais il y a cette notion, on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est une réalité. C'est que lorsqu'un homme a pour conjointe une femme qui le rabaisse, une femme qui ne le respecte pas, une femme qui est une furie, hein, dans certains couples, on peut le voir, eh bien, ça va détruire sa vie. Ça va même détruire son appel. Mmh. Et ça, on peut le voir dans plusieurs ministères qui avaient des appels glorieux. Mais il n'avait pas, si je peux dire, la femme qui allait avec cet appel. Ou à la rigueur, c'était la femme que Dieu avait prévue, mais elle n'a pas accepté le processus de transformation que Dieu avait prévu pour que ce couple puisse être épanoui. Ok ?
J'aimerais ajouter aussi, c'est que ça peut être aussi... je connais un couple que la femme, elle est vraiment appelée pour servir Dieu dans un ministère particulier dans l'Église. Et le mari, ben, il est vraiment doué dans beaucoup de choses, mais il n'a pas cette facilité de parole. Et donc, lui, il se met vraiment au service de sa femme.
Dans le cadre du ministère.
Dans le cadre du ministère. Et ils trouvent leur équilibre. Il y a parfois, souvent, on pense que quand l'oppression ou le dominant, c'est toujours l'homme. Mais on a aussi rencontré des couples où c'est la femme qui amène l'homme par le chemise ou par le col.
Qui porte le pantalon, c'est une expression.
Voilà, c'est ça. Et que l'homme, il est malheureux parce qu'il ne peut pas prendre sa place. Et d'autres fois, c'est la femme. Donc, on est dans une société où aujourd'hui, et toutes sortes d'abus existent. Et il faut qu'on veille pour qu'il y ait un respect équitable et une place, la place de chacun pour qu'on soit complémentaire et qu'on forme une équipe. Une équipe qui travaille ensemble, c'est deux personnes qui reconnaissent qu'ils ont la même valeur. Ils se mettent ensemble pour obtenir et pour achever un travail. Et c'est pourquoi couple en mission, d'avoir une vision ensemble, d'avoir un but de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu.
C'est pourquoi la Bible, elle dit à chacun ce qu'il doit faire, quelle doit être sa position, afin de faire fonctionner la machine, si je peux dire. Hein? Et tu le disais, un couple, c'est pas un homme qui est devant une femme, n'est-ce pas? Et qui l'empêche d'exister. C'est pas non plus une femme qui est devant un homme et qui détruit son identité.
Non.
Un couple, c'est un homme et une femme
à côté,
qui sont ensemble à côté l'un de l'autre, amen, sur la même ligne, si je peux dire, mais qui apprennent à fonctionner dans la complémentarité, qui ne font pas de leurs différences, comme le veut le diable, une occasion de s'opposer l'un à l'autre, mais une occasion de mieux fonctionner ensemble, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et heureusement que nous sommes différents, parce que c'est la différence qui permet la complémentarité. À un moment donné, nous ne sommes plus capables de faire certaines choses, mais l'autre va pouvoir prendre la relève. Et c'est ça la complémentarité. Mais pour pouvoir la vivre, nous devons reconnaître nos propres limites.
Et l'ennemi, le diable, il essaie de nous faire tourner un contre l'autre pour qu'on soit ou en compétition ou qu'on essaie de dominer l'autre ou même de prouver quelque chose. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Et, ou sinon, l'ennemi va faire une sorte qu'on va être totalement dans deux antipodes différents et qu'on n'arrive pas à comprendre celui que Dieu a placé à côté de nous. Donc, un à côté de l'autre, en équipe, c'est vraiment merveilleux. Et c'est là où on peut chasser 10 000.
Absolument. Le couple est d'ailleurs l'enjeu d'un combat spirituel. Et ça, ça me rappelle une histoire qu'un homme avait racontée. Il n'arrivait pas à communiquer avec sa femme. Elle parlait là, il parlait là. Et pourtant, ils s'aimaient tous les deux. Et si on se laisse prendre dans certains pièges du diable, à un moment donné, malgré qu'on s'aime, on ne va plus arriver à communiquer. Lorsqu'un couple cesse de communiquer, c'est là que les problèmes commencent. N'est-ce pas? Et cet homme, il était vraiment tourmenté par cette situation qu'il vivait, qui allait en empirant de jour en jour avec son épouse. Il a décidé de chercher la face de Dieu, de prendre un temps pour prier, pour jeûner aussi. Et à un moment donné, il a eu une vision. Et dans cette vision, il voyait un démon entre lui et sa femme.
C'est ça.
Dans la vraie cause du problème. Donc derrière certains conflits que nous avons avec notre conjoint, il y a des puissances de ténèbres qui ont intérêt à ce que nous ne soyons pas unis, comme pour les raisons que nous avons abordées tout à l'heure. L'intérêt du diable, c'est que les familles soient divisées, Adam et Ève soient dysfonctionnels, n'est-ce pas? À partir de là, ces désaccords, ces batailles parfois, ça rejaillit sur tout l'entourage. Mmh. Un couple qui est en conflit, un couple qui se déchire.
Qui est jaloux de l'un et l'autre, ouais, de la réussite de l'autre.
Ce sont les, ou en compétition, bien sûr, ce sont les enfants qui vont souffrir. Absolument. C'est l'église à laquelle ils appartiennent. C'est le témoignage pour Jésus-Christ qui va en pâtir. Et le diable, il aura réussi son coup. Alors le diable, il n'est pas un couple prêt à faire exploser. Il en a déjà suffisamment à son palmarès, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il veut, c'est que ces explosions produisent beaucoup d'effets collatéraux, que les enfants soient touchés, que l'Église, que la société soit touchée. Aujourd'hui, nous voyons à quel point, à cause des conflits de couple, des familles déchirées, la société perd tous ses repères. Mmh. Si Dieu a placé Adam et Ève au départ dans le jardin, pour dominer, pour être des gardiens, pour être un sujet de bénédiction pour ce monde, c'est parce que notre couple en Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien, doit continuer dans cette vision.
Amen.
Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons être un sujet de grande bénédiction à cause de notre unité pour un grand nombre. Ouh, ah, 30 ans déjà. Voilà, maintenant nous allons conclure ce cours sur le thème du couple.
Et oui, et on a trouvé qu'il y avait encore tellement de points qu'on aurait aimé aborder que je crois qu'on va faire un deuxième.
Oui, je crois que ça s'y prête, hein, faire un deuxième cours sur le thème du couple. Mais en attendant, nous vous encourageons à vous fournir notre livre « Couple en mission » dans lequel vous trouverez toutes sortes de principes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder ici. Nous y parlons aussi de sexualité, ce qui est un point non négligeable dans ce domaine. Et puis,
il y a quelques expériences qu'on a vécues dans notre vie de couple et on a essayé d'aborder ça.
Oui, on raconte quelques histoires avec humour. Et nous souhaitons vraiment que le contenu de ce cours vous soit bénédiction à vous et à toute votre famille. À bientôt.
À très bientôt. Quelle aventure, toi et moi.